On pourrait croire que la passion de Frédéric Cyr pour la cuisine, pour la gastronomie en fait, est pour lui une question de génétique. Renaud Cyr, qui a tenu longtemps le manoir des érables de Montmagny, avec une table constituée dès le début de produits locaux et régionaux, était le père de Frédéric. Il lui a vraisemblablement légué l'intérêt et la curiosité pour les bons produits et ceux qui les cultivent ou les élèvent. Mais le fils a choisi de faire le tour du monde pour développer sa passion et acquérir un important bagage qui l'a mené aujourd'hui au poste de directeur culinaire, ce que l'on appelle, selon la formule anglaise, le poste de chef exécutif au Château Frontenac. Frédéric Cyr, bonjour.
Bonjour.
Frédéric Cyr, un petit survol rapide, là, votre cheminement. Là. Vous êtes baigné dans la cuisine depuis que vous êtes tout petit.
Oui, moi, je suis le fils de Renaud Cyr. Mes parents avaient une auberge qui s'appelait le Manoir des Érables, qui a été un des premiers relais châteaux en Amérique du Nord. C'était un peu les pionniers de la cuisine. À l'époque, on appelait ça la cuisine régionale. Aujourd'hui, on emploie souvent le terme anglais « farms to table », donc de la ferme à la table. Fait que c'est des gens qui allaient voir les producteurs agricoles directement et qui discutaient avec eux pour avoir les produits les plus frais possibles, les mieux élevés. Ils décidaient des standards, des différents types de produits avec les agriculteurs directement.
Mais c'est pas génétique, ça, la cuisine, le goût de la cuisine. Là. On peut y être initié, on peut y être incité par les parents, comme vous l'avez été, sûrement. Mais vous, qu'est-ce qui vous a amené là, à aller dans cette voie-là?
En fait, c'est un métier qui est très prenant, puis au niveau de l'énergie de ce métier-là, d'être en temps réel, c'est un milieu qui est très, très prenant, où il y a beaucoup, beaucoup de passion, où il y a beaucoup d'urgence. C'est quelque chose qui me plaisait, ça donne l'impression de vivre, ça donne l'impression d'avoir toujours quelque chose, sur le feu. C'est pour ça, en fait, que j'y suis retourné. Puis tranquillement, ben, j'avais le goût de... Comme j'avais grandi dans la cuisine puis la restauration, j'avais le goût aussi d'explorer des choses que j'avais pas appris chez moi. Fait que je suis parti à l'étranger, j'ai fait les bateaux de croisière, je voulais voir le monde, je voulais apprendre l'anglais à New York. Ça m'a permis de faire beaucoup, beaucoup de choses différentes. Des choses fabuleuses, là, des choses exceptionnelles. Aller en Antarctique avec un petit bateau de croisière, aller vivre dans des grandes métropoles du monde, faire presque toute l'Asie par les côtes, les marchés du très au nord, Petropavlov en Russie, jusque très, très au sud, en Tasmanie, l'Australie. C'est quand même exceptionnel, traverser par les lieux légendaires, le Cap Horn, ces choses-là, aller à Valparaiso, au Chili, traverser le Brésil, tout ça, aller dans les marchés, acheter du vin, des alcools, ces choses-là. Fait que c'était quand même toute une opportunité. Ça fait rêver, j'en parle, ça me fait encore rêver, ces moments-là où on est dans des lieux qui nous sortent de chez nous, mais qui nous rappellent en même temps parce qu'on fait dans ces lieux-là les mêmes gestes et les mêmes choses, les mêmes discussions, les mêmes marchandages, les mêmes passions, rencontres passionnées avec les producteurs, les mêmes... Tu sais, il y a toujours... C'est la cuisine est sur le bateau, mais... La cuisine est dans l'auberge, mais l'auberge est au cœur de ce milieu-là, de ces marchés-là, où on va acheter de la nourriture, où on la transforme avec d'autres personnes, où on échange des secrets de recettes, où on nous montre quel est le plus mûr, le plus frais, qu'est-ce qui va servir à quoi, comment ça va servir, c'est quoi le mieux, comment leur mère fait, comment leur femme fait. C'est merveilleux, non?
Après ce tour du monde, vous revenez tout près de votre lieu d'origine. Vous êtes à Québec, au château Frontenac. Et si on s'étirait le coup, peut-être qu'on verrait même Montmagny d'où.
Un lancer de pierre de Montmagny, là, c'est sûr. Mais ce qui est le fun avec le château, c'est qu'on est au cœur d'un... On est encore au cœur d'un terroir. Fait que ça, je trouvais ça le fun. Quand je suis dans la verrière du château, je vois le pont de l'île d'Orléans où j'achète les petits fruits, où j'achète plusieurs produits. J'ai les montagnes de Charlevoix, d'où viennent les charcuteries, plusieurs de nos fromages. J'ai l'archipel de l'île aux grues qui est là, où je travaille avec les fromages de l'île aux grues. J'ai Montmagny, le Cap Saint-Ignace. Toutes ces choses-là sont autour de nous, comme à une heure de route. Donc, c'est quand même je suis comme dans l'étoile, au cœur de l'étoile, d'un terroir gigantesque, peut-être le plus gros terroir de tout le Québec. Donc, c'est sûr que c'est privilégié. Pour nos châteaux, là, presque tout vient du Québec. L'hiver, à cause de l'importation des légumes, un peu moins, je dois être à 65 %, mais l'été, je dois être à 85-90 % de produits québécois. Les viandes, les chies, on a beaucoup, beaucoup de nos produits qui sont d'ici, même le bœuf.
J'allais vous demander ça. Dans une institution comme le Château Frontenac, qui c'est quelque chose de gros, là, et dans le réseau, encore plus dans le réseau Fairmount, c'est possible, justement, et vous réussissez bien à appliquer cette notion-là de la ferme à la table?
Oui, c'est même... Ce qui est le fun, c'est quelque chose de merveilleux qui s'est passé dans le monde du voyage, c'est que les gens du voyage, dont l'hôtellerie fait partie, ont compris que les clients veulent profiter des lieux où ils vont et les découvrir et que ça passe aussi par la table. Donc, d'avoir des produits de chez soi, de présenter une expérience locale, qu'elle soit boréale, qu'elle soit paysanne, peu importe la langue qu'on lui donne, les clients sont prêts pour ça, recherchent ça et c'est ce qu'ils veulent. Donc, avant, on avait des produits un peu formatés, qui étaient un peu pareils dans tous les hôtels du monde pour s'assurer que les gens ne soient pas trop dépaysés en se promenant, mais maintenant, on pousse le dépaysement pour s'assurer que les gens, dans leur voyage, vont goûter les plats, les saveurs locales, les traditions culinaires locales, qu'ils soient populaires ou gastronomiques. Et ça simplifie beaucoup notre travail. Par contre, par exemple, on est en train de renégocier qui allait être notre fournisseur d'eau embouteillée. Et on a réussi à faire signer SK pour tout le Canada. Parce que SK avait, à cause de l'ESCAR, SK avait un produit particulier. Nous, on trouvait que c'était un beau produit, que c'était unique, que c'était fabuleux d'avoir ça chez nous, qu'il y avait une belle histoire de comment on prenait l'eau, comment cette eau-là était naturellement filtrée, comment ces choses-là étaient. Et on a réussi à fermenter, embarquer avec nous pour tous les hôtels canadiens. SK a fait les grandes bouteilles en verre avec nos hôtels à l'intérieur. Donc, c'est devenu un beau partenariat et c'est un partenariat qui part de chez nous pour conquérir la côte ouest.
Il y a bien sûr le fait d'utiliser des produits locaux, régionaux. Il y a le fait aussi de les stimuler, les développer, de les encourager et de recréer une dynamique auprès des producteurs également, qui souvent essaient de développer leur marché et ont besoin du soutien de gens comme vous.
Oui, mais pour nous, souvent, on rencontre les producteurs directement, on commande par eux directement. Donc, et souvent, l'avantage qu'on a aussi, c'est tranquillement pour faciliter les choses de tout le monde, parce que c'est sûr que l'éleveur a déjà tout, ou le producteur a déjà tout son travail de production à faire. Puis souvent, ce qu'on va faire pour leur faciliter la chose, c'est qu'on va les joindre à un distributeur. Et à ce moment-là, pour eux, ça ouvre des marchés, parce que comme le distributeur, comme ils livrent chez le distributeur, si plusieurs personnes veulent leurs produits, ils sont déjà réseautés, où ils peuvent dire ah, ben, appelle telle personne, c'est lui qui me distribue. Donc, ou passe-moi la commande, mais j'ai quelqu'un qui va te livrer, ça va rentrer avec ta commande de tel distributeur. Donc, eux, ça nous permet, nous, de s'impliquer différemment. Je pense que c'est là où le fait d'avoir des volumes, le fait d'avoir un réseau, le fait d'avoir des volumes de produits, ça nous permet de faire des commandes assez grosses pour qu'on demande d'avoir des produits en particulier chez un distributeur. Et à partir du moment où nous, le produit, il est chez le distributeur, pour le petit producteur, ça lui donne cette opportunité-là d'augmenter ses volumes de production, d'avoir plus de facilité à développer le réseau, d'arriver chez les gens et de dire « Non, mais je suis distribué par un tel. Donc, si vous avez besoin de mon produit, il est là en inventaire. » Donc, tout ça, ça permet vraiment... Il y a un côté vraiment magique là-dedans où... Aussi simple que ça puisse paraître, souvent ces gens-là n'arrivent pas à ce qu'on leur ouvre la porte parce qu'ils sont souvent plusieurs à faire le même produit. Nous, quand on en a choisi un puis qu'on le supporte dans ça, bien, il a cette opportunité commerciale-là. Ce qui est assez difficile, en fait. C'est le plus dur quand on produit, d'avoir à un moment donné, être capable de... La garantie des volumes, c'est ce qui nous permet d'acheter les équipements, de les financer sur quelques années, de faire ces choses-là. Donc, c'est super important pour eux. Nous, ça nous sert à nous aussi, mais on a quand même... On devient un moteur de cette économie des saveurs, là. Ça, c'est intéressant pour nous. Puis dans mon cas, moi, c'est un legs culturel, hein, parce que c'est le legs que j'ai reçu de ma famille. Mon père l'a fait dans un niveau régional en influençant tous les chefs du Québec à faire la même chose chez eux. Mais moi ici, ce que j'ai comme avantage avec mes millions de dollars de nourriture achetés chaque année, c'est d'avoir un impact réel, de soutenir ces entreprises-là, à devenir des entreprises qui rayonnent au niveau national. Donc ça, c'est un autre niveau. Mais en fait, ce qui est le fun, c'est que c'est le bébé qui grandit. Donc c'est ça que c'est là où c'est intéressant.
Est-ce que cette approche-là, elle est acceptée de façon assez globale dans un grand réseau comme celui de Fairmount, à tout le moins Fairmount au Québec et au Canada?
Oui, en fait, dans le produit frais, c'est facile de justifier parce que comme les saisons sont légèrement différentes, comme les producteurs sont à côté, que le produit frais est dur à déplacer, c'est difficile de signer des ententes nationales pour des fruits et légumes, des choses comme ça, parce que finalement, la possibilité d'arrivage des importateurs ne sont pas les mêmes à Vancouver que chez nous. Qu'au Québec. Donc, là-dessus, c'est assez simple de le faire. Et comme je disais, ils veulent avoir les produits, le petit produit local qui est différent. Et Fairmont est une marque de luxe. Donc, si dans cette idée de luxe-là, il y a un côté de rareté, d'exceptionnel, fait que ce produit-là joue bien. Donc, ça va bien dans la culture, dans l'esprit même de ce qu'est Fairmont. Fairmont, qui est un groupe qui a racheté le Canadien Pacifique. Donc, le Canadien Pacifique, c'est quand même une série d'hôtels de légende impliqués coast-to-coast au Canada qui avait été créé justement pour ce grand rayonnement canadien et international. Et ça joue encore ce rôle-là. Et c'est drôle parce que maintenant, les clientèles ont un peu changé. Avant, c'était la clientèle américaine. Maintenant, c'est la clientèle asiatique. Maintenant, c'est la clientèle russe. Ils débarquent chez nous. Ils vont à travers ces chaînes d'hôtels-là qui sont dans des lieux mythiques, dont Québec, dont les Rocheuses, sur la côte ouest canadienne. Donc, c'est quand même un magnifique réseau.
Et vous, ça implique pour vous que vous soyez constamment et régulièrement au gré des saisons, au gré des productions, soyez vraiment là à point dans ce que vous offrez sur vos menus.
Oui, exactement. Mais on le fait longtemps d'avance en plus. Comme on commence à travailler Noël au mois de janvier. Donc au mois de juin, on a une bonne idée de ce qu'on va faire. Et quand on sort de la folie effervescente de l'été, on a déjà une bonne idée de où va s'en aller notre automne. On a été capable aussi de parler avec nos producteurs pour qu'ils planifient. Parce que nous, c'est quand même des gros volumes. Pour certains, c'est une grosse bouchée à prendre. Donc, on est capable de leur demander d'être prêts pour nous pour décembre, pour les différents événements, les différents moments de l'année. Donc, c'est sûr qu'on le fait, mais il faut beaucoup le planifier à l'avance. Et souvent, les gens, ils sont impatients parce qu'ils s'imaginent qu'on va mettre leurs produits demain sur notre menu. En fait, on met sur le prochain menu, on les prévient à l'avance. Et quand ça commence, souvent, ils sont surpris de la vague, de la forte demande que ça leur donne, qu'il faut soutenir. Mais après, c'est sûr que c'est à ce moment-là où on devient des partenaires avec eux, parce que eux, ça nous permet des volumes qu'on peu connus avant. Donc, pour nous, c'est fantastique. Mais oui, il faut vraiment le planifier avec eux. Puis souvent, on leur dit, votre produit, ils me rappellent 2-3 fois, puis je leur dis, non, votre produit me plaît. On change des menus à telle période. Ils vont être vendus tranquillement, puis là, vous allez commencer à avoir des volumes peut-être dans un an. Là, et quand ça arrive, c'est comme si j'en avais jamais parlé. Les gens ne s'attendaient pas à ce que ce soit un aussi gros volume puis qu'il y ait une si forte demande. Là,
je vous parlerai pas de votre menu de Noël, on révélera pas ça tout de suite, mais actuellement, là on est l'automne, là. Qu'est-ce que vous offrez? Là? Automatiquement, l'automne, on pense à des menus réconfortants, là, des bons produits, peut-être un peu plus lourds que l'été, mais comment vous voyez ça?
Là, on travaille les fromages, on a recommencé à travailler les fromages, on a recommencé à travailler aussi des viandes plus en sauce, moins en grillade. On a les pièces rôties en entier, les gigots, les côtes de bœuf entières, des trucs comme ça. On a la soupe à l'oignon, la chaudrée de palourde, les îles de la Madeleine. Il y a beaucoup de produits qu'on a régulièrement sur notre carte, mais qui, à l'automne, vont devenir nos grands vendeurs. Là. Comfort food, les gens, ils veulent la nourriture réconfortante, chaleureuse. Et ces plats-là marchent très, très, très bien. On fait un peu de civet de lièvre. Beaucoup de produits de chez nous, en fait, avec eux.
Dans ce que vous voyez, dans vos activités, si on veut, commerciales avec les producteurs, les transformateurs, etc., est-ce qu'il y a des secteurs de production ou des produits spécifiques pour lesquels vous aimeriez que l'on soit davantage avancé, que ce soit davantage développé?
Ce qui est le plus difficile au Québec par rapport à certaines productions, par exemple, comme l'agneau, des choses comme ça, ce qui est difficile, c'est d'avoir des coupes standards, de dire, OK, quand j'achète l'agneau au Québec, souvent, il faut que j'achète l'agneau entier. Parce que sinon, je pourrais pas avoir juste des carrés d'agneau du Québec, parce qu'il n'y aura pas assez d'agneau pour me fournir juste des coupes de carrés. Fait que des fois, pour moi, ce genre de choses-là, c'est un problème. Puis c'est pas parce que c'est l'agneau ou c'est pas parce que c'est le Québec, parce qu'on l'a fait dans la volaille, on l'a fait dans le porc très, 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 très bien. On a les coupes, les sous-coupes, c'est facile, on a des grosses productions et tout. Mais on parle souvent de l'agneau du Québec, c'est formidable, mais il va rester ce support-là. Je pense qu'il y a besoin d'avoir des choix là, de fait, mais pour savoir que les gens soient capables d'élever des plus gros troupeaux, puis qu'on soit capable vraiment de développer puis de supporter ces producteurs-là. Il va falloir qu'il y ait des plus grands volumes. Du moins, pour un hôtel comme le nôtre, où moi, je peux faire 3000 repas par jour, si j'ai besoin de 150-200 carrés d'agneau plusieurs fois par semaine, ça devient toute une autre approche au niveau commercial. Fait que c'est vrai dans l'agneau. Le bœuf, par contre, il y a des belles, belles initiatives qui se font dans le bœuf au Champlain. On utilise presque uniquement du Bœuf Island du Québec et tout. Fait que c'est formidable, ça. Mais il faut être très proche de nos producteurs, il faut leur rappeler nos volumes, il faut faire beaucoup, beaucoup de suivi ensemble. C'est vraiment un travail d'équipe. En même temps, c'est un partage de passion, c'est ça qui est le fun. Parce que nous, on reconnaît la qualité distinctive de ces produits-là, puis eux, ils travaillent à améliorer ces qualités aussi. Donc, ça devient comme... ça fait des grandes discussions épiques au téléphone.
Ici Lionel Levac. Des chefs comme Frédéric Cyr sont indéniablement des agents de développement et de soutien de nos spécialités agricoles et agroalimentaires. Avec Frédéric Cyr, on retrouve, spécifiquement au Château Frontenac, une vitrine majeure et privilégiée pour les produits québécois. Dans mon prochain blog, je poursuis la discussion avec ce chef qui conclut que pour que l'on ait de bons légumes, il faut bien soigner le jardinier. Au revoir.